on a, l'an dernier, on a fait une série d'études sur les doctrines, et on n'a pas fait d'études de livres. Et c'est vrai que c'est un petit peu inhabituel. La plupart du temps, lorsqu'on fait des études bibliques, on fait des thèmes, mais aussi des livres. Et l'avantage du livre, alors le thème c'est très très bien, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est plus souvent le dimanche matin lors de prédication. L'avantage d'étudier un livre, c'est que finalement c'est Dieu qui impose ses thèmes. Et on prend le livre, et peut-être qu'il y a des sujets qu'on n'aurait pas abordés, pour X raisons, par confort ou autre, n'empêche qu'ils sont dans la parole de Dieu, et donc s'ils sont dans la parole de Dieu, c'est qu'ils sont importants. Et de prendre un livre, on va comme ça suivre ce que Dieu nous propose comme thème. Et on vous propose donc la première épître de Paul aux Corinthiens. Il y a beaucoup de raisons aussi qui ont fait qu'on a choisi ce livre, qui est un livre finalement très très intéressant et peut-être un des écrits de Paul les plus pratiques. Et on va retrouver beaucoup de situations que l'on peut adapter à notre quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, les chrétiens de Rome avaient beaucoup de connaissances. Bonjour tout le monde, je pense qu'on va rajouter des chaises. Hein. Donc les raisons d'étudier le livre, la première épître de Paul aux Corinthiens, en fait c'est une épître assez particulière. On va voir qu'il y avait beaucoup de raisons qui faisaient que cette église était finalement sous l'influence du monde. Les pensées du monde, la sagesse du monde étaient très très importantes dans cette église et leur vie en était imprégnée. Paul va recadrer les choses et quelque part, il va parler de la sagesse qui vient de Dieu. Il va montrer combien est dérisoire, et ça on va y revenir même déjà ce soir, combien est dérisoire la sagesse humaine, même avec son bel emballage, par rapport à la sagesse de Dieu. Et quelque part, ça nous touche aussi aujourd'hui, puisqu'on est aussi sous cette influence. Et combien on a besoin également d'avoir ces paroles de Dieu au travers donc de la plume de Paul, pour nous encore aujourd'hui. Alors par contre, comment va-t-on procéder pour étudier cette épître? C'est une longue épître. C'est une très longue épître. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a une façon de faire qui voudrait que l'on prenne les versets, les mots, et on va les décortiquer. Mais évidemment, ça prendrait beaucoup de temps. Et peut-être qu'on perdrait aussi un petit peu la vue d'ensemble de l'épître. Donc on va peut-être faire un petit peu différemment. Quelque part, ce que l'on voudrait, c'est simplement qu'on puisse les uns et les autres s'encourager à ensuite rentrer chez nous et reprendre tout ce qui a été dit et tout ce qui a été lu dans cette épître. Ça permet d'avoir d'abord cette vision globale. Il y avait toute une série de messages de John Alexander sur chaque livre de la Bible. En un quart d'heure, il faisait un petit survol d'un livre biblique. Et c'est super parce que ça permet comme ça d'avoir déjà une vision. Ah oui, tiens, tel livre, de quoi il parle de cela. Je vais essayer de le retrouver, c'est enregistré. Si je le retrouve, je vous le mettrai à disposition. Alors on ne va pas faire comme John Alexander en un quart d'heure, mais on va quand même essayer de prendre plusieurs passages éventuellement et de faire un petit survol et de prendre dans les passages les points principaux. Voilà un petit peu la façon de faire. Ça va nous mener à peu près jusqu'au mois d'avril, du roulant. Comme ça, ça nous laisse une latitude, parce qu'on n'est pas aux pièces aussi. Donc on se fixe une heure d'études bibliques, ça passe très très vite. Si on n'a pas pu voir tout ce qu'on avait prévu, ça n'a pas d'importance. Du roulant, on le voit, l'étude qui suit. Et si ça décale un petit peu, ça décalera un petit peu. Et on a quand même quelques semaines, quelques études qui resteront pour éventuellement finir le livre. Et s'il est fini au mois d'avril comme ce qu'on a prévu, eh bien, on aura après d'autres sujets qui pourront venir. Voilà. Ceci pour expliquer aussi que si vous voulez intervenir, faites-le en toute liberté. C'est toujours enrichissant quand quelqu'un a été touché par un passage et qu'il veut le partager. Voilà, c'est quelque chose qui est précieux aussi. Alors, maintenant, il faut aussi parler un petit peu de la ville de Corinthe, parce que ça nous éclaire énormément sur la mentalité, sur ce qui se passait dans l'église de Corinthe. C'est une église très particulière, hein, franchement. Et on peut être étonné, mais quand on réfléchit un petit peu au contexte dans lequel ils vivaient, quelque part, ça ne va pas justifier, mais ça peut en tout cas expliquer un petit peu. Alors, aujourd'hui, c'est une ville avec, pas forcément une grande importance. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et j'ai vu certains historiens parler de 700 000 habitants. Donc, c'était quand même une ville d'une certaine importance qui avait vraiment pas mal d'atouts. Alors, je vous ai juste mis une carte. Est-ce que vous voyez un petit peu ? Oui. Voyons si j'ai quelque chose.
Ça dépend, c'est long, c'est parce que c'est pas évident.
Alors, juste là, ce qu'il y a écrit ici. Non, je vais vous en montrer une autre. Alors là, je vous fais juste un petit topo de l'historique. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont beaucoup plus calées que moi. Donc n'hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises ou à rajouter si j'oublie des choses importantes. Alors, vous voyez mon truc ?
Oui.
Alors, je cherche...
Un peu à gauche.
Voilà, Corinthe, la Grèce Corinthe, ici, et je vous le montre de plus près. Voilà, on voit Corinthe ici, et on se rend compte que, alors maintenant là, sur cette carte, il y a un canal, à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc ici, hop, c'était bloqué, et si on revient, c'est pour comprendre un petit peu l'importance de la ville, et c'est ce qui se passait aussi. Si on revient sur cette carte, on se rend compte que les navires... qui voulaient emmener de la cargaison par ici, ils étaient obligés de faire tout ce tour, environ 350 km. Et apparemment, c'est une zone avec beaucoup de difficultés. On navigue sur la Méditerranée, pas si facilement que cela aussi. Et notamment, parce qu'ici, il y a des courants très très forts, et il y a des vents, voilà, donc à cause notamment de la crête qui est là. Et cette ville, donc, elle avait un emplacement stratégique. Parce que pour éviter de faire tout le tour, bon, ça c'était carrément considéré un petit peu comme le Cap Horn de la Méditerranée. C'est pour dire qu'il y avait du danger. Et il y avait même un proverbe marin qui disait qu'un marin ne va jamais passer ce cap, je ne me rappelle plus du nom, Milan peut-être, quand ?
Malais,
merci. Oui. Le Cap Malais. Sans avoir fait son testament. Donc c'est pour dire que c'était quand même une navigation relativement dangereuse. Et pour éviter de faire cela, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait ? Donc, je remontre l'autre carte. Il y avait ici un port s'ancré. Donc on déchargeait les marchandises là. On les amenait sur cet autre port. Voilà. Et comme cela, là on les rechargeait. Et on évitait tout ce périple dangereux. Et il y avait une route qui était aménagée et qui permettait même de transporter, non pas la cargaison, mais même certains navires, quand ils n'étaient pas trop trop importants, on amenait les navires par terre, hop, jusqu'ici. Voilà.
Ce chemin s'appelle le Diolkos.
Le Diolkos. Je me doutais, René, que tu allais apporter des précisions. Mon petit homme l'avait dit. Voilà. Donc, forcément... Corinthe, ici, avait un emplacement stratégique. Et c'était une ville qui profitait de toute cette agitation, de toutes ces cargaisons qui étaient transportées, et de tout ce monde qui était là, pour pouvoir donc transporter toute la cargaison de ports d'une grande importance. Voilà. C'était vraiment un point stratégique. Alors, il y avait maintenant, depuis 150 ans, je pense, il y a un canal qui a été creusé.
Napoléon III.
Oui. Je sais que Néron avait commencé à le faire creuser par des esclaves juifs. Mmh. Et puis, quand il est mort, ça a été abandonné parce que c'était beaucoup trop difficile. Mais à l'époque, voilà, il fallait passer par la terre. Et donc, c'était la raison qui profitait tellement à la ville de Corinthe.
C'est les Français qui l'ont creusé.
Ce sont les Français qui l'ont creusé. Voilà, mais bon, bien plus tard. Mmh. Voilà. C'était une ville aussi assez récente. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été rasée par les Romains en 146, je crois, avant Jésus-Christ. Il y avait eu un soulèvement grec, et donc les Romains avaient rasé la ville. Et c'est Jules César, en 40 à peu près avant Jésus-Christ, qui a reconstruit cette cité, et elle a pris un essor tout tout de suite, un essor très très rapide, elle était peuplée de beaucoup de nationalités, bien sûr des Grecs, mais également il y avait beaucoup de Romains militaires, anciens militaires, qui venaient passer ensuite leur villégiature, leur retraite là, parce que la région leur plaisait. Beaucoup de fonctionnaires romains également, des Juifs bien sûr, notamment des Juifs qui avaient été chassés de Rome et qui s'étaient installés à Corinthe, et puis d'autres personnes, d'autres villes. Donc c'était assez hétéroclite. Alors, Corinthe possédait aussi, ça marche plus ça. Voilà. Ici, si vous ne voyez pas, il y a marqué Acro-Corinthe. Donc c'était l'acropole, donc la ville haute, c'est bien ça. La ville haute qui était très importante, puisqu'elle pouvait, elle était fortifiée, ça servait en tout cas de fortification naturelle, et elle pouvait recevoir pratiquement l'ensemble de la population en cas d'attaque. Et puis, sur cette acropole, sur cette ville haute, il y avait aussi, bien entendu, le temple, et le temple de la... comment ça s'appelle la... d'Aphrodite, oui. Le temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour, celle qui ne mange pas des sangliers, pour ceux qui regardent Astérix. Voilà. Donc, Aphrodite, la déesse de l'amour, il y avait environ 1000 prêtresses, d'après certains historiens, là aussi ça diverge un petit peu, mais bon, comptons 1000 prêtresses, en fait c'était des prostituées. Et qu'est-ce qu'elle faisait le soir? Eh bien sûr, elle descendait dans la ville basse, et là, il y avait tellement de marins, etc., qu'elles avaient toujours... il n'y avait pas de chômage, il y avait toujours du travail. Et c'était une profession qui était considérée comme une autre. La mentalité ne faisait pas que l'on montrait du doigt cette profession. Non, pas du tout. Les prostituées, c'était des personnes comme les autres. Et il y avait aussi, bien même, des jeunes hommes aussi qui faisaient aussi ce travail, avec toujours la même clientèle. Et la fidélité n'était pas forcément quelque chose qui était important à l'époque. Voilà. Donc, à tel point, tu me confirmes aussi, mais qu'il y a un terme grec qu'on pourrait traduire par « corinthianiser ». Quelque chose comme ça. Et ça veut dire vivre dans une totale débauche. Et quand on parlait de Corinthe, c'était Ibiza au centuple, quoi. C'était vraiment. Tu vas à Corinthe, comme par hasard, c'était tout de suite très axé sur la débauche. Voilà donc l'ambiance dans laquelle Paul. A laissé en fait l'église, et voilà l'ambiance dans laquelle l'église de Corinthe s'est développée. Et donc, bien entendu, cela avait malheureusement une influence aussi pour les chrétiens. Alors, maintenant, on va quand même lire aussi dans Actes le passage qui nous parle de la naissance de l'église de Corinthe. Alors, c'est Actes chapitre 18. Et du verset 1 au verset 18, si quelqu'un là veut le lire bien fort.
Oui, je dis quel verset ?
Acte 18, je me suis trompé peut-être.
Ah non, je sais pas.
De 1 à 18, oui c'est ça, de 1 à 18.
Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, Paul, pressé par l'Esprit, attesta aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dans la maison était constitué à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu.
Voilà, merci. Donc là, on a vraiment la naissance de cette église de Corinthe. Lorsque Paul est parti, il a été remplacé après par un chrétien, un juif, nommé Apollos. Et là, c'est le verset 24 qui nous le dit. Et on voit qu'Apollos, c'était quelqu'un de très, très éloquent. Donc 24, voilà, 25, etc. Et on peut le lire, il se mit à parler, verset 26, librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et ensuite, il est parti en Achaïe, c'est-à-dire donc dans la province de Corinthe, et il s'est installé à Corinthe. Et on va retrouver Apollos aussi, mentionné dans le premier chapitre, notamment de l'épître donc aux Corinthiens. Et on sait aussi que Céphas, c'est-à-dire Pierre, également, a enseigné en tout cas à Corinthe, puisque on voit aussi que son nom est mentionné. Alors, donc voilà un petit peu la naissance de l'Église. On voit que Paul est quand même resté relativement longtemps là, et ensuite il a passé le relais. On sait que très rapidement, malgré tout, il y a eu des dysfonctionnements. Et Paul a écrit une première lettre. Et cette lettre, eh bien, on n'en a pas trace. Vous entendrez des fois parler d'épître perdue. Il s'agit de cette première lettre qui, elle aussi, déjà était de nature corrective. Et ça, c'est 1 Corinthiens 5, verset 9, qui nous l'apprend, où il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde. » Et puis voilà, il va continuer, on y reviendra. Donc on apprend que Paul avait écrit une première lettre. Et pourquoi avait-il écrit cette première lettre? Parce que finalement, eh bien, dans l'Église, on comprend qu'il y avait des personnes qui se disaient chrétiennes et qui vivaient déjà dans la débauche. Et donc c'était une première lettre, voilà, pour corriger un petit peu ces dérives qu'il y avait dans Corinthe, et à tel point qu'ici certains ont pensé qu'il parlait des débauchés non chrétiens, et Paul leur dit, mais si c'était le cas, il faudrait ne plus avoir de relation avec quiconque, et je parlais bien de ceux qui se disent frères et qui vivent dans la débauche. Donc voilà. Et donc dans cette lettre, Paul va donc déjà reprendre les chrétiens. Ici, ce qui a motivé la rédaction de cette lettre, c'est d'abord parce que Paul a appris qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'anomalies et que ça l'a énormément touché. Il y avait beaucoup d'anomalies dans les façons de faire et de vivre des Corinthiens. Il a été averti par la famille de Chloé, on le voit au chapitre 1 et au verset 11, on le lira, on le prendra après, et il se rend compte donc que l'Église a en face d'elle de nombreux problèmes. Il y a des divisions. Certains se disent de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Céphas, d'autres de Christ. Il y a des divisions. Certains se sont attachés finalement au messager plutôt que à celui qui est au-delà, à l'objet du message. On voit aussi que les Corinthiens n'abandonnaient pas la façon de faire du monde. Le comportement du monde, eh bien, ils avaient continué à le pratiquer. Et à tel point que Paul va même jusqu'à leur dire que ce que vous faites, on ne le voit même pas chez les païens. Votre comportement est tel qu'on ne va même pas le retrouver chez les païens. Donc ça allait vraiment très très loin. Ils prenaient la scène sans discernement. Ils attentaient des procès les uns contre les autres. Alors imaginez un petit peu, hein, ils prennent la scène un dimanche, et puis le lundi, ils doivent se retrouver au tribunal en procès l'un contre l'autre. Paul leur dit, mais qu'est-ce que c'est ces histoires-là, on voit qu'aucun don ne leur manquait. Aucun don ne leur manquait, on va y revenir. Et ils étaient friands des dons les plus spectaculaires. Et puis ils avaient posé aussi beaucoup de questions doctrinales à Paul. Et Paul va profiter également de cette lettre pour répondre à ces questions. Et on pense qu'elle a été rédigée alors qu'il était à Éphèse. Voilà. Alors, juste avant d'attaquer le premier chapitre, un petit peu pourquoi finalement prendre cette épître? Quel est l'intérêt? Parce que c'est une église tellement particulière dont elle parle que est-ce que ça nous concerne? Bon. J'ai envie de dire qu'il hein, y a un verset qui dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Déjà, ça nous concerne parce que si on est debout, c'est grâce au Seigneur. Et quelque part, on est comme ces Corinthiens, de la même nature, de la même patte. Et les risques qu'ils ont, dans lesquels ils sont tombés, les pièges qu'ils ont pu rencontrer, on peut nous aussi les rencontrer. Paul va mentionner que celui qui pense être quelque chose, bon, peut-être que ce n'est pas la meilleure des façons d'aborder vraiment notre relation avec Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis, elle est aussi une démonstration de quelque chose de tellement important également, que être chrétien, c'est être une nouvelle créature. Et forcément, eh bien, dans notre comportement, cela doit se ressentir, cela doit se voir. Quelqu'un qui est chrétien, il y a dans les actes des apôtres, les disciples sont entendus par les autorités et qui sont étonnés de les entendre parler ainsi, alors que c'était des gens sans instruction. Et les autorités reconnaissent, sont obligées de reconnaître que c'était des disciples de Jésus-Christ. Ils ont été avec le Christ. Ça se voyait dans leur façon de parler, dans leur comportement. Et pour un chrétien, ça doit se voir aussi. Et c'est le travail aussi de l'esprit en nous qui permet cela. Et juste une petite anecdote que je voudrais vous donner. Une fois avec la famille, on avait été visiter, on était en vacances dans la montagne, et puis on pouvait visiter une miellerie. Et donc on a visité la miellerie, c'était très très intéressant, et l'apiculteur, il y avait plusieurs personnes qui visitaient aussi, l'apiculteur nous a tout montré, du départ, là, les abeilles, etc., jusqu'à la mise en pot, voilà, le miel, la gelée royale, il nous a tout expliqué de façon vraiment, on était captivés. Et puis après, bien sûr, c'était gratuit la visite, donc le but, bon, voilà, c'est de vendre, donc on est allé acheter à la boutique, et c'était son épouse qui tenait la boutique, et elle nous dit, ben, vous êtes d'où, vous ? On dit, bien, nous, on est du 64. Ah, c'est à vous la voiture bleue ? Ben, ouais, oui. Vous avez un poisson, vous êtes chrétien ? Ben oui. Ben, nous aussi. Et figurez-vous que quand on écoutait cet homme, avec Pascal, on se disait, tiens, il pourrait être chrétien. Pourtant, il nous a rien dit. Mais la façon dont il parlait aussi, il décrivait également les merveilles des abeilles, etc. On s'était fait la réflexion, tous les deux, la même réflexion, il pourrait être un chrétien. Et vous voyez, finalement, eh bien, ça se voyait. Il était chrétien, sans qu'il ait eu besoin même de le dire. Hein, et bien, ça se voyait qu'il était chrétien. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de l'esprit en chacun d'entre nous. Et cette lettre est très concrète et très pratique pour cela. Et vraiment, elle nous apporte beaucoup. C'est pour ça que c'est vraiment... tellement important hein, de l'apprendre et de la réétudier si on la connaît, de la réétudier encore et de se poser finalement une question. Et là, je rejoins le message d'il y a, je crois, 3 semaines d'Alain Morineau. Hein, on pourrait se dire finalement, qu'est-ce qui influence ma vie hein, qu'est-ce qui influence ma vie hein, qu'est-ce qui m'influence à moi? Est-ce que je suis comme finalement ces Corinthiens qui étaient influencés par le monde ou est-ce que c'est la parole de Dieu et donc Dieu lui-même qui m'influence? Et si c'est le cas, eh bien ça va se voir. Et l'œuvre de l'Esprit qui va s'accomplir en nous va faire que ça va se voir de plus en plus. Voilà donc un petit peu pour, voilà, pour avant d'attaquer vraiment le premier chapitre, ce que l'on pouvait dire hein, du pourquoi avoir choisi cette première lettre de Paul aux Corinthiens. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose peut-être. Non. Alors on va attaquer. On va prendre, alors, on va lire morceau par morceau. On va voir jusqu'où ça va nous amener. On va commencer par... je ne sais pas ce que j'ai mis là. Je regarde là les diapos. C'est toujours bien aussi de pour avoir une vue d'ensemble. Hein. Si on devait donner un titre à ce livre, alors moi j'ai choisi juste un verset de ce livre où Paul dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ ». Et Jésus-Christ crucifié. Et quelque part, c'est vraiment, peut-être, alors on peut trouver d'autres versets qui seraient tout aussi judicieux, d'autres paroles voilà, qui pourraient aussi vraiment résumer en une petite phrase le livre de la première épître aux Corinthiens. Mais là, vraiment, Paul va vraiment prendre cela comme base et démontrer que la sagesse humaine, par rapport à la sagesse qui est une folie aux yeux des hommes, c'est-à-dire la croix, démontrer que la sagesse humaine, c'est elle, la folie. Et que la croix, eh bien, c'est une sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui n'a rien de comparable avec la sagesse humaine. Et il va encourager les lecteurs vraiment à se réfugier dans la sagesse de Dieu, dans leur quotidien, de façon vraiment très très concrète. Voilà. Un petit peu juste pour vous donner vraiment une petite photo là, très rapide de cette épître. Alors, on va prendre donc les 9 premiers versets du chapitre 1. Et là encore, si quelqu'un veut lire, ça va me reposer la voix.
Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, et le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.
Voilà, donc on prend juste ce premier paragraphe, va-t-on dire, avec donc l'introduction, les salutations de Paul. Alors je vous ai dit qu'on allait survoler un petit peu les passages. Juste quand même deux choses. Bon, la première chose, vous avez vu que c'est Paul et Sosthène. Alors Sosthène, peut-être que ça vous rappelle quelque chose. On l'a lu il n'y a pas longtemps, dans le chapitre 18 des Actes. On voit que Sosthène, en fait, il a été passé à tabac par les Juifs à Corinthe. Et donc, il a dû passer un mauvais quart d'heure. Et on le retrouve ici. Et si la lettre a été effectivement écrite d'Éphèse, on peut donc comprendre que Sosthène est parti avec Paul et a accompagné Paul. On ne sait pas beaucoup d'autres choses de ce frère, voilà, sinon que bien, voilà, il a été lui aussi persécuté à cause de l'Évangile. Voilà. Et puis deuxième chose, et là on va rester un petit peu plus longtemps, c'est ce titre que Paul va utiliser ici, le titre d'apôtre. Alors pourquoi on va rester un petit peu plus longtemps? Parce que Paul va insister là-dessus. Il va insister là-dessus parce que sa reconnaissance en tant qu'apôtre était plus ou moins malmenée. Et donc c'est pour ça qu'on verra dans les chapitres qui vont suivre que Paul va revenir à plusieurs reprises. Et je crois que c'est important aussi de savoir finalement, apôtre, qu'est-ce que c'est au juste, hein, quelle est la définition selon la parole de Dieu d'apôtre. Alors apôtre, ça veut dire, je vous facilite la chose, ça veut dire envoyé. Apôtre, ça veut dire envoyé. Donc on pourrait dire que finalement, nous sommes tous des apôtres puisque nous sommes tous envoyés pour annoncer la parole de Dieu. Et ça, quand même, on le dirait d'une façon un petit peu rapide parce qu'on se rend compte que ce n'est pas quand même tout à fait ce que la parole de Dieu enseigne. En 1 Corinthiens chapitre 12, 29, Paul pose une question. Tous sont-ils apôtres? Sous-entendu, bien entendu, sous-entendu, non, tous ne sont pas apôtres. Ce n'est donc pas le sens d'envoyer pour tous les chrétiens qui est donné par l'Écriture. On voit par exemple, je vous lis l'introduction que Paul va utiliser au propos des filles coupées dans Colossiens. Je pense que c'est dans Colossiens. Voilà, je vous lis Colossiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, voilà, aux saints qui sont à Éphèse. Donc, Paul, apôtre de Jésus-Christ, et le frère Timothée. Donc, Timothée n'était pas qualifié d'apôtre, sinon Paul aurait dit, Paul et Timothée, apôtre de Jésus-Christ. S'il a bien précisé, c'est que Timothée n'était pas considéré comme étant un apôtre. Donc déjà, ça nous montre que cette appellation n'est pas l'appellation envoyée que l'on pourrait prendre pour tous les chrétiens. Ce n'est pas de ça qu'il est parlé ici. L'apôtre a un sens vraiment particulier. L'apôtre par excellence, c'est Jésus-Christ. Et je vous ai mis Hébreux chapitre 3, verset 1. On ne va pas le prendre, mais simplement on nous a parlé de Jésus-Christ, l'apôtre. Et c'est vraiment l'apôtre avec un grand A, c'est Jésus-Christ. Celui qui a été envoyé dans le monde pour notre salut, c'est lui. L'apôtre par excellence. Mais On voit aussi que ce titre est donné aux 12. Ce titre est donné aux 12. Et ça, on va le voir d'une façon, est-ce que je vous l'ai mis, oui, dans Luc, chapitre 6, verset 13, où là, c'est vraiment très clair. Quand le jour parut, Jésus appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Voilà, donc vraiment, ce sont les 12 à qui Jésus a donné le nom d'apôtres, alors que beaucoup d'autres le suivaient également. Mais ce sont vraiment ces 12-là à qui Jésus a donné le nom d'apôtres. Paul va se présenter aussi comme étant apôtre. Et il va dire, on l'a lu dans Colossiens, apôtre selon la volonté de Dieu. Apôtre selon la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fallait pour... Alors, on peut lire aussi dans Acte 1, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est instructif. Acte 1, 21 à 26. Donc, Judas n'est plus parmi les apôtres. Il faut le remplacer. Donc, qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean, donc lorsque Jésus a été plongé dans l'eau et que lorsqu'il est ressorti et que l'Esprit est venu sous la forme d'une colombe, que la voix s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, voilà. Depuis ce jour-là, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne celui de ces deux que tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. » Et c'est donc Matthias qui a été choisi. Et donc, on voit que, voilà, cet autre, Joseph, là, il avait accompagné Jésus. Mais finalement, ce n'était pas suffisant, et c'est le Seigneur lui-même qui a nommé Matthias comme étant apôtre. Pourtant, Joseph devait être quelqu'un vraiment de proche du Seigneur, puisqu'il avait été proposé par les apôtres. Mais voilà, ce sont des personnes vraiment que Dieu choisit d'une façon toute particulière. Les apôtres, ce sont des personnes que Dieu a choisies d'une façon toute particulière. Et on voit ici qu'il faut qu'ils aient vu le Seigneur. Alors quelqu'un dira, mais est-ce que Paul a vu le Seigneur ?
Oui. Sur le chemin de Damas, a priori.
Voilà, sur le chemin de Damas. Je vous l'ai mis aussi, il va en parler également, donc ça c'est dans les actes. Il va aussi reprendre cela. Ne suis-je pas apôtre ? N'ai-je pas vu le Christ ? Ça c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 1. Et donc, Paul, lui aussi, a vu le Seigneur. Alors, quand on regarde les commentaires, c'est souvent donc à ce moment-là que l'on pense que Paul a vu le Seigneur. Moi, je réfléchis tout haut, mais peut-être que je me trompe, mais je me dis, mais qu'est-ce qui empêche aussi que Paul ait assisté également à finalement des enseignements de Jésus ? Parce que malgré tout, il a été contemporain aussi de Jésus pendant un certain temps. Donc, qu'est-ce qui empêche qu'il ait pu aussi assister et puis finalement s'interroger ? Après, on sait qu'il a choisi une autre voie puisqu'il a persécuté l'Église du Seigneur. Mais bon, voilà. Après, c'est juste une réflexion que je me fais, qui vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, lui aussi a vu le Seigneur et lui aussi a été appelé, non par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il va vraiment préciser. Alors, ce titre est appliqué aussi une ou deux fois à Barnabas ou Jacques, mais là, c'est vraiment d'une façon vraiment très, très particulière. Alors, Acte chapitre 1, verset 8, la tâche des apôtres. Qu'est-ce qu'ils devaient faire, les apôtres ? Alors, voilà, j'insiste là-dessus parce que ça nous est indispensable pour comprendre après pourquoi Paul insiste tellement sur son apostolat. Acte chapitre 1, verset 8, Jésus leur parle et leur dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà une première chose. Alors quelqu'un va dire, « Oui, mais bon, les apôtres, est-ce qu'ils ont été témoins jusqu'aux extrémités de la terre ?» Non. Donc finalement, ce que Jésus leur demande là, ça s'adresse à tous les chrétiens. Alors quelque part, oui. Sauf que quand on regarde aussi le terme qui est utilisé ici pour la terre, on se rend compte que c'est ce même vocable qui est utilisé pour désigner une contrée, ou pour désigner la terre connue d'alors, c'est-à-dire l'Empire romain en particulier. Donc, le Christ demande à ses apôtres, aux 12, d'être ses témoins, jusqu'aux extrémités de la terre, mais on n'est pas censé comprendre la terre entière, parce qu'on sait ensuite qu'ils ont passé le relais. Ça, c'est un premier jalon qu'il nous faut poser pour comprendre vraiment le rôle de l'apôtre. Et puis, un deuxième jalon qu'il nous faut poser, simplement je n'ai pas noté la référence, vous allez m'aider, je vous cite le passage, les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, acte 2 peut-être, et dans les prières. Les premiers chrétiens persévéraient donc dans l'enseignement des apôtres. Donc voilà un petit peu comment la parole de Dieu a fait tache d'huile et s'est étendue à la terre entière. Le mandat que le Christ a donné aux apôtres, c'était donc d'enseigner. Et cet enseignement, eh bien, il a été ensuite dispersé, on va dire, notamment lorsqu'il y a eu les premières persécutions, qui nous sont mentionnées dans les actes. Il a été dispersé et ça s'est étendu de plus en plus et ça a gagné le globe entier. Avec l'Empire romain en particulier, avec les persécutions aussi des Juifs et puis de l'Empire romain. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important. On sait que les apôtres ont fait énormément de miracles. Et Jésus aussi a fait énormément de miracles. Les apôtres ont fait énormément de miracles. Et surtout au début de leur ministère. Et si on observe bien, on se rend compte qu'ensuite ça s'est espacé. Et il y a quelque chose qui nous éclaire à ce sujet aussi, parce que c'est quand même étonnant. Alors Paul aussi a fait des miracles, d'autres également ont fait des miracles, Philippe, mais vraiment les apôtres d'une façon toute particulière ont accompli énormément de miracles. Et regardez en acte 5, versets 12 et 13. Je saute, j'ai mis des versets, mais je saute parce que le temps passe vraiment très très vite. Alors, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Alors si vous avez une version, par exemple la version Semeur, vous allez pouvoir comprendre peut-être avec la version Semeur que tous les autres chrétiens se joignaient à eux. Mais quand on prend le texte original, on voit que alors ça c'est la version Second que je vous ai lue, la plus juste c'est la version La Colombe, on voit que non, les apôtres étaient entre eux, et les autres n'osaient même pas se joindre à eux, voyant tous les miracles qu'ils accomplissaient. Et en fait, le Seigneur, par ces miracles-là, authentifiait leur parole comme étant sa parole. Donc voilà, voilà déjà une première base pour comprendre ce qu'est vraiment un apôtre. Et on va un petit peu continuer, pour un petit peu aller plus loin, dans Éphésiens. Alors, Éphésiens, chapitre 2, versets 19 et 20, je vois sur le diaporama que j'ai oublié le chapitre. Je vous le lis.
Éphésiens combien ?
Éphésiens, chapitre 2, pardon, j'ai oublié le chapitre. Éphésiens, chapitre 2, versets 19 et 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et on pourrait aussi comparer avec 1 Corinthiens 3, 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, quelle est l'explication? On en a déjà parlé. Quelle est l'explication de cela? On peut l'illustrer avec d'autres paroles que l'on trouve dans les évangiles, d'abord. Par exemple, en Luc 24, 27, Jésus est avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et il nous a dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures tout ce qui le concernait. Donc, Moïse, les prophètes, tournent nos yeux vers Jésus-Christ. Et de même, les écrits des apôtres tournent nos yeux vers Jésus-Christ. Le message des prophètes, c'est Jésus-Christ. Et le message des apôtres, et on le voit avec Éphésiens et 1 Corinthiens, le message des apôtres, c'est aussi Jésus-Christ. Et donc, voilà, ils ont eu ce mandat d'enseigner, de donner les paroles du Christ au monde entier, finalement, à travers la parole de Dieu, à travers le Nouveau Testament. Le message des apôtres, c'est vraiment Jésus-Christ. Et lorsque ce message a été complet, c'est-à-dire lorsque le canon du Nouveau Testament a été terminé, le canon donc, la norme à laquelle on doit se référer, eh bien, le titre d'apôtre, la mission de l'apôtre au sens premier de la parole de Dieu, s'est arrêtée également. Nous avons le message du Christ dans sa totalité avec la parole de Dieu. Donc, le mandat que les apôtres ont reçu, ils l'ont accompli, et ce mandat est terminé. Voilà donc l'enseignement, et on pourrait prendre beaucoup d'autres passages, vous voyez que j'en avais mis quelques-uns, on pourrait en prendre d'autres aussi, mais le temps passant très très vite. Voilà donc le sens primordial d'apôtre dans la parole de Dieu. Alors je fais une petite parenthèse, pour dire que ceux qui aujourd'hui se donnent le titre d'apôtre, on pourrait dire oui, ils sont envoyés, et on est tous envoyés. Mais quelque part, à la lumière de l'enseignement biblique, c'est quand même un petit peu limite, parce que c'est vraiment un titre qui est utilisé pour des personnes particulières, ceux qui ont écrit notamment le Nouveau Testament. Même si d'autres, comme par exemple Luc, n'étaient pas apôtres, mais il a fait sous la présidence des apôtres, sous l'autorité des apôtres aussi, puisqu'il a été trouvé les apôtres pour avoir leur témoignage d'une façon scrupuleuse, il a tout relevé. Jacques aussi, le frère du Seigneur également, mais lui aussi, il a accompagné le Seigneur. Donc on voit que vraiment, c'était des personnages particuliers, mais apôtre lui-même, c'est vraiment ces personnes, ces frères que Christ a envoyés et qu'il a chargé de rédiger le Nouveau Testament que nous avons ici sous les yeux. Et il y a un passage dans l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 2, où notre Seigneur parle aux églises et il dit ce que je trouve bien en toi, c'est que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et je pense que c'est aussi ce que nous devons faire. Le réflexe que nous devons avoir, c'est éprouver ceux qui se disent quelque chose et qui peut-être ne le sont pas et qui peuvent même accomplir des miracles. Est-ce qu'un miracle va authentifier forcément son auteur comme étant quelqu'un appartenant au Seigneur? Mais absolument pas. Et le Seigneur va le dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas accompli des miracles par ton nom? Et que leur répond le Seigneur, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Et on sait que l'ennemi peut également accomplir des miracles, et on le voit ne serait-ce qu'en lisant le passage de l'Égypte avec le Pharaon, on sait que l'ennemi peut accomplir des miracles, et un miracle n'authentifie pas forcément son auteur comme appartenant au Christ. C'est pour ça que ce discernement que nous devons avoir, qui est fondé sur la parole de Dieu, éprouver les esprits, c'est quelque chose de primordial. Voilà. Un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le mot apôtre. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Alors, on continue un petit peu. Quelque chose que j'avais remarqué dans ce premier chapitre. Je me le reprends. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Déjà, rien que ça, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que nous, on dit, bon, ben voilà, moi je suis de l'église de Pau. Mais non, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je vois ici, non pas l'église de Corinthe, mais l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et donc ici, ben oui, c'est l'église de Dieu qui est à Pau. Et donc ça, je trouve que c'est tellement encourageant de savoir que oui, nous faisons partie du peuple de Dieu, et l'église ici à laquelle nous appartenons, c'est l'église de Dieu. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, je ne l'avais pas remarqué jusqu'alors, je vais vous dire que je l'ai remarqué dernièrement en faisant cette étude, et je trouvais que c'était vraiment tellement encourageant. L'église, là aussi il faut juste un petit peu en parler, église, ecclésia, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ecclésia, en grec?
Alors,
on le traduit par assemblée. C'est vrai que église, assemblée, Darby par exemple va toujours parler d'assemblée, d'autres vont parler d'église, d'autres un petit peu des deux, ça n'a strictement aucune importance. Franchement, ça n'a aucune importance. Mais si on prend le terme ecclésia, ça veut dire ex, ça veut dire hors, ecclésia, appelé. Donc appelé hors. Donc l'église est appelée hors. L'église est appelée hors du monde. Et ça aussi, dans la perspective de l'étude de cet épître, c'est vraiment important. Et également pour nous, c'est vraiment important de savoir que nous appartenons à un peuple qui qui a été appelé hors du monde. Et Paul continue en disant à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et sanctifié, finalement, ça ressemble un petit peu à la définition d'église. Sanctifié, ça veut dire mis à part. Donc, nous sommes appelés hors et nous sommes mis à part. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose de tellement encourageant. Nous sommes appelés hors, nous sommes mis à part. Et il va parler aussi des saints par vocation. Saints par vocation. Et saint aussi, ça veut dire également, comme sanctifié, mis à part. Paul écrivait à des saints qui étaient non pas morts, comme on l'entend aujourd'hui, mais qui étaient bien vivants. Aujourd'hui, bon, un saint, c'est quelqu'un qui est mort, qui a accompli des choses extraordinaires, et puis voilà, on lui donne ce titre-là. Mais non, dans la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Nous sommes saints parce que nous sommes sanctifiés, mis à part, par l'œuvre de Christ, parce que nous sommes couverts, parce que nous sommes justifiés par le sang du Christ. Voilà pourquoi nous sommes saints. Et donc, bien, les uns et les autres, on pourrait s'appeler, Saint-Georges, ça ferait peut-être des fois bizarre, voilà, Saint-Jean-Philippe, pourquoi pas. Mais voilà, ça serait tout à fait justifié parce que, en Jésus-Christ, nous sommes saints. Voilà, c'est ça aussi, c'est quelque chose d'important pour nous aujourd'hui. Alors, à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ne rentre pas dans le sujet, mais juste si vous posez des questions, qui doit-on prier? Ou si on vous a posé des questions, ou si vous avez eu une réflexion, qui doit-on prier? Est-ce qu'on doit prier Dieu le Père, Dieu le Fils, ou Dieu le Saint-Esprit? Ben ici, vous avez au moins le tiers de la réponse. Ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, donc déjà, voilà, on invoque aussi Jésus-Christ. Voilà, je referme juste la parenthèse parce qu'il y a tellement de choses à voir qu'on ne rentre pas dans les... on ne fait pas de digression, sinon on ne va pas s'en sortir. En tout cas, c'est une lettre qui s'adresse à nous, puisqu'il nous l'est dit. Ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, donc à Pau aussi, notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, autre chose aussi à relever, on va voir après avec les passages qui vont suivre que c'était quand même des chrétiens très 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 particuliers. Mais malgré ça, on voit, et ça c'est vraiment aussi encourageant, que Paul va remercier le Seigneur pour ses frères, pour ses sœurs en Christ. Il va vraiment continuellement grâce à Dieu pour votre sujet, pour tout ce que vous faites, parce que vous êtes comblés, pour vous tous, je rends grâce à Dieu. Et moi, je trouve que c'est bien, et que c'est un exemple pour nous aussi, parce que très très souvent, on aurait tendance à avoir le réflexe de relever ce qui ne va pas chez nos frères et sœurs. Et Paul, lui, n'a pas ce réflexe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas ensuite leur dire les choses, et on sait qu'il ne va même pas mâcher ses mots, il ne fait pas l'autruche, ce qui ne va pas, il va leur dire. Et c'est sa responsabilité, comme c'est aussi la nôtre. On doit veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, etc., aux bonnes œuvres. C'est notre responsabilité de veiller les uns sur les autres. Mais Paul, en premier, relève toutes les qualités, toute l'œuvre de Dieu qu'il a remarquée chez ses frères et chez ses sœurs. Et puis autre chose, et puis je pense que ça sera la fin, là aussi de tellement encourageant, qu'il a aussi peut donner du grain à moudre sur certains sujets qui peuvent revenir aussi au niveau de chrétiens. Je vous relis à partir du verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, voilà ce que je voulais relever, les versets 8 et 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, il vous affermira. Paul s'adresse à des chrétiens qui vraiment dysfonctionnent totalement. Et pourtant, il leur dit, mais Dieu va vous affermir. Et sur quoi est basée cette affirmation? Est-ce que c'est sur la fidélité des hommes? Est-ce que c'est sur leur capacité? Est-ce que Paul pense que, bon, avec la lettre que je vais leur envoyer, ils vont quand même réagir? Non. Sur quoi est basée cette certitude? Sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que Dieu est fidèle, eh bien, il va vous affermir. Et souvent, il y a cette question qui se pose. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Et si vous réfléchissez aussi, si vous étudiez ce sujet, eh bien là, vous avez aussi un petit peu de grain à moudre et à vous dire que là, ben, ce que dit Paul, c'est que la certitude du salut, ce n'est pas notre œuvre. C'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu et c'est sa fidélité. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'il est hors du temps et qu'il ne change pas. L'œuvre qu'il a commencée en vous, eh bien, il va l'accomplir jusqu'au bout. Que vous soyez d'accord ou pas, de toute façon. Hein, vous lui appartenez, vous êtes son enfant. Quand vous êtes l'enfant de quelqu'un, eh bien, vous avez beau faire et beau dire, vous ne pouvez rien changer. Donc voilà. Hein, et le Seigneur, des fois, va utiliser des moyens qui ne sont pas très très agréables pour nous amener à ce que nous soyons irréprochables et que nous devenions semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est notre destinée. Hein, c'est la destinée de chaque enfant de Dieu. Et Jésus-Christ, il a été fait pour nous sagesse, justice, mais sanctification et rédemption. Sanctification. Il est celui qui nous met à part, qui nous sanctifie. Et c'est lui l'auteur de notre marche avec lui. Et donc, eh bien, même pour les Corinthiens, Paul pouvait dire, parce que Dieu est fidèle, il va vous rendre irréprochable. Voilà, je m'arrête là, parce que je pensais qu'on allait aller plus loin, mais le temps passant très très vite. Mais peut-être que, alors c'est 8h pile poil, mais peut-être que vous avez, pourquoi pas, aussi une réflexion à apporter, un commentaire.
Oui. Moi, j'avais juste remarqué, on parle souvent de synagogue. Pourquoi on parle souvent de
synagogue ? Dans la parole de Dieu ?
Oui.
Ouais, parce que c'était là que les Juifs se retrouvaient, notamment dans les synagogues. Soit il y avait le temple à Jérusalem, jusqu'à ce qu'il soit démoli, mais après, dans les autres villes, les Juifs se retrouvaient dans les synagogues. On va dire comme ici, les églises, pour. Voilà, tu vois, c'était. Et dans les synagogues, entre autres, il y avait aussi les rouleaux. C'était des rouleaux à l'époque, c'était pas des codex, c'était des rouleaux. Des livres de la loi, de l'Ancien Testament. Et comme ils n'en avaient pas disposition, pour lire la parole de Dieu, eh bien, ils allaient aussi dans les synagogues. C'est pour ça que même les chrétiens, les premiers chrétiens, se retrouvaient dans les synagogues, parce qu'il y avait aussi la parole de Dieu qui était à leur disposition dans celui-là, tout simplement.
Ouais. Donc après la vie de Jésus-Christ, c'est là où les églises sont mises, c'était avant.
Alors, l'Église, on considère que la naissance de l'Église, c'est dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est venu, a été donné donc aux chrétiens. Voilà, c'est là que le point de départ de la naissance de l'Église. Mais les premiers chrétiens n'avaient pas à leur disposition la richesse que nous avons ici. L'imprimerie n'existait pas, c'était des rouleaux. Je ne vais pas me rappeler, mais je crois que le livre d'Ésaïe, le rouleau mesure, je pense que c'est quelque chose comme 15 mètres. Tu vois, voilà. Donc pour lire et transporter ça, c'était pas évident. Et puis il fallait être très très riche pour les avoir. Donc les chrétiens n'avaient pas d'autre solution pour lire la parole de Dieu que d'aller très très quotidiennement peut-être dans les synagogues où là ils avaient à leur disposition, eh bien pas la totalité, mais en tout cas une partie. Plus tard il y a eu les codex. Donc les codex c'était des parchemins qui étaient reliés entre eux, qui faisaient comme des petits livres. C'était déjà moins cher et plus facile aussi à transporter. Et puis après bien sûr on a eu nous la Bible, la parole de Dieu.
Mais je suis étonné par votre question parce que le Christ, Jésus et sa famille étaient juifs, et lui-même il a bien enseigné quand il a été cherché par ses parents, il était en train de parler dans une synagogue, il avait 12 ans. Donc ils étaient juifs. L'église telle qu'on la connaît maintenant, c'est bien après. C'est bien après. Et Même Paul, tout ça, il parlait dans les synagogues. Il n'y avait pas encore d'église construite en tant que telle.
Après je comprends ta question, Nathan, parce que peut-être aussi, au départ, le ministère de Jésus s'adressait aux Juifs. Et il y a d'ailleurs un passage où il dit, n'allez pas chez les Samaritains, mais la parole de Dieu, au départ, c'était pour les Juifs. Et quand les Juifs ont rejeté le Christ et l'ont crucifié, eh bien ensuite, bon, encore dans les actes des apôtres, elle était adressée au départ aux Juifs. Et puis après, ben, c'est Pierre, je crois, qui dit, ben, voilà, maintenant on va s'adresser aux païens. Donc voilà, peut-être aussi c'était à cause de ça que tu posais la question. En tout cas, merci. C'était une bonne question. Ouais. Et bien, je vous propose alors qu'on termine par la prière. Si, donc, L'un d'entre vous veut remercier le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, nous voulons ce soir encore réaliser le privilège que nous avons de pouvoir posséder ta parole. Parce que ta parole est la vérité et tu veux nous enseigner, Seigneur, l'importance de ce que toi tu dis. Te remercie, Seigneur, encore pour cette soirée où nous pouvons nous rappeler ce que est un apôtre. Et c'est vrai que comme il a été dit, nous sommes tous appelés, nous sommes tous envoyés à aller apporter la bonne nouvelle. Mais nous voulons le faire, Seigneur, avec discernement, avec sagesse, avec ta sagesse, Seigneur, avec la lettre que tu nous as laissée, afin de pouvoir, Seigneur, être vrai dans tout ce que nous pouvons dire ou faire. Nous te prions, Seigneur, que vraiment ta parole, elle soit une lampe à nos pieds, comme David lui-même le disait, que vraiment nous puissions te faire pleinement confiance en toutes choses, parce que tu n'es pas un Dieu qui ment. Et merci encore, Seigneur, de nous rappeler que la sagesse humaine est une folie à tes yeux. Alors que, Seigneur, ta sagesse, et c'est ce qui nous amène à Jésus-Christ, et tu as tout accompli sur la croix, et nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur ta sagesse et non sur notre propre sagesse. Que nous puissions, Seigneur, vraiment avoir les yeux toujours fixés sur toi, en reconnaissant que tout vient de toi, et que nous n'avons qu'à, Seigneur, marcher par la foi. Alors, Seigneur, ce soir encore, nous te prions pour chacun de nous ici, que vraiment nous puissions être vrais dans nos cœurs. Et que même si nous n'avons peut-être pas toute la connaissance, mais que nous sachions venir à tes pieds comme Marie était à tes pieds. Donne-nous vraiment, Seigneur, de marcher dans cette vérité afin de pouvoir être une église de Dieu à peau. Et que vraiment, Seigneur, dans ce lieu où ceux qui nous entourent puissent dire « Oui, là, la parole de Dieu est annoncée. » Seigneur, permets-nous d'être des flambeaux, d'être le sel de la terre. Permets-nous, Seigneur, de vraiment marcher dans l'unité, en ayant toujours les regards fixés sur toi. Et encore ce soir, Seigneur, combien nous sommes enrichis et bénis par ce que nous avons pu entendre. Nous avons hâte déjà, Seigneur, aux prochaines études. Et vraiment, Seigneur, que ton esprit soit au milieu de nous. Aide-nous à saisir, à comprendre et à être vrai devant toi. Merci. Et sois loué, Seigneur, et raccompagne chacun de nous, et que aussi nous puissions peut-être prendre du temps aussi à ouvrir et à lire cette lettre aux Corinthiens, afin de nous nourrir davantage, et afin d'être prêts à écouter encore ce qui va être dit. Conduis, Seigneur, tes serviteurs, et que nous puissions être, Seigneur, justement, des serviteurs que toi seul conduis. Et c'est sur toi que nous voulons nous reposer. Et nous te rendons grâce et merci de ce privilège que nous avons de pouvoir librement être ce soir à ton écoute. Sois loué et béni et merci encore pour toutes choses. Amen.
Amen. Amen.